embarquez sur le canal de la philo. Une émission proposée par Victor.
Chaque année, la somme colossale de 800 milliards de dollars est investie dans la publicité, sous toutes ses formes. Désormais, la publicité partout présente est ciblée, individualisée, en fonction de nos besoins, ou plutôt pour stimuler nos besoins, voire même peut-être pour les créer. Autrement dit, la publicité joue sur nos désirs. Elle les attise dans le but de nous faire consommer les biens et les services susceptibles de les rassasier. Mais l'échec est total. Nos désirs ne sont jamais rassasiés. Ce n'est évidemment pas un échec pour les agences publicitaires qui jouent justement sur cette ambiguïté fondamentale. Et si le désir humain n'était pas fait pour être satisfait?
Au fil de l'eau, embarquez sur le canal de la philo.
Pourquoi la publicité fonctionne-t-elle? Eh bien, c'est parce qu'elle vient générer chez nous un manque. La mécanique du désir est bien huilée. Un manque apparaît, soit spontanément, soit de l'extérieur, ici. Il faut y mettre fin, et le désir, satisfait, provoque alors du plaisir. Et le manque, inlassablement, réapparaît, et avec lui la perspective du plaisir à venir. La machine à désirer fonctionne à plein, et le capitalisme s'est merveilleusement branché sur elle pour générer la consommation que la publicité stimule. L'enjeu ici pour nous n'est pas de comprendre les multiples subtilités de ce système, mais plutôt d'analyser ce fait humain fondamental qu'est le désir. Car le désir est en lui-même un paradoxe. Il est né de la souffrance et il est producteur de plaisir. Le plaisir ressenti apparaît donc immanquablement mal né, entaché par la souffrance du manque, elle-même vouée à se reproduire, pour que le plaisir puisse être renouvelé. Dans la mécanique du désir que je viens de décrire, on peut reconnaître la logique de l'addiction. Un manque grandissant répondra à un plaisir grandissant, jusqu'à ce que le cercle vicieux ne se referme sans fin, comme une boucle. Alors est-ce la seule lecture du désir? Pourquoi continuer à désirer si cela nous voue à une répétition absurde? Mais en même temps, comment s'en passer? Puisque l'être humain est précisément toujours incomplet, en manque de quelque chose.
J'ai une question.
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 Et j'ai une question.
J'ai une question.
Et vous pouvez donc continuer à nous envoyer vos questions, vos remarques, tout ce que vous voulez en fait, qui puisse avoir un rapport avec l'émission, sur le mail de l'émission, donc aufildelo@pigouilleradio.fr, donc au fil de l'eau, comme ça se prononce, avec des O partout, O-F-I-L-D-E-L-O, au mépris de l'orthographe certes, mais pour de la simplicité, @pigouilleradio.fr. Vous pouvez aussi passer par le site de Pigouille Radio et le formulaire de contact. Voilà, donc bon, n'hésitez pas pour donner plus d'interactivité à tout ça. Nous attendons donc vos remarques ou questions.
Ça va? Ça va? Pigouille Radio.
Le désir est donc notre principal générateur de plaisir. Satisfaire un désir, c'est générer un plaisir physique ou psychique, sans nul autre pareil. Et plus l'attente liée au désir aura été forte, plus le plaisir ressenti sera intense. Dans l'épisode précédent à propos des cadeaux, j'avais rapidement évoqué l'importance de cette attente, dont on pourrait même se demander si elle n'est pas plus importante que la réalisation du désir lui-même. On y reviendra un peu plus tard. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce plaisir. Bien évidemment, ressenti lorsque nous obtenons ce qui nous manquait. L'idée que le plaisir est un but dans l'existence, qui se suffit à lui-même, porte en philosophie le nom d'hédonisme. ça vient du grec Eidon, le plaisir. Dans sa version la plus radicale, l'hédonisme mène à une pensée qui fait du désir et de sa satisfaction le cœur d'une existence heureuse. Et on en trouve une illustration vraiment intéressante dans un fameux dialogue de Platon. On va revenir un peu aux origines là. Platon, qui a donc écrit pas mal de dialogues mettant en scène notamment Socrate, son maître, qui n'a jamais rien écrit mais qui faisait de la philosophie à l'oral, en dialoguant justement. Et il y a notamment un de ces dialogues qui s'appelle le Gorgias, dans lequel Calliclès et Socrate discutent de la place du désir dans une existence libre et heureuse. Ils sont en désaccord, et Calliclès va présenter une vision qu'on peut qualifier vraiment d'hédoniste radicale pour le coup, centrant l'essentiel de l'existence sur la réalisation des désirs et de tous les désirs, sans aucune limite. Alors on va écouter un peu son argumentation, et puis on essaiera de comprendre ce que ça signifie.
Si l'on veut vivre comme il faut, on doit laisser aller ses propres passions, si grandes soient-elles, et ne pas les réprimer. Au contraire, il faut être capable de mettre son courage et son intelligence au service de si grandes passions, et de les assouvir avec tout ce qu'elles peuvent désirer. Seulement, tout le monde n'est pas capable, j'imagine, de vivre comme cela. C'est pourquoi la masse des gens blâme les hommes qui vivent ainsi, gênée qu'elle est de devoir dissimuler sa propre incapacité à le faire. La masse déclare donc bien haut que le dérèglement est une vilaine chose. C'est ainsi qu'elle réduit à l'état d'esclave les hommes dotés d'une plus forte nature que celle des hommes de la masse, et ces derniers, qui sont eux-mêmes incapables de se procurer les plaisirs qui les combleraient, font la louange de la tempérance et de la justice à cause du manque de courage de leur âme. Écoute, Socrate, tu prétends que tu poursuis la vérité, eh bien, voici la vérité. Si la facilité de la vie, le dérèglement, la liberté de faire ce qu'on veut, demeurent dans l'impunité, ils font la vertu et le bonheur. Tout le reste, ce ne sont que des manières, des conventions, faites par les hommes à l'encontre de la nature. Rien que des paroles en l'air qui ne valent rien.
Et on voit bien donc la puissance et la radicalité de l'argumentation de Calliclès. L'accumulation de plaisir par la satisfaction de tous ses désirs est au fond la seule ligne de conduite digne de l'homme fort et courageux. Les limites au fond ne sont bonnes que pour les gens qui n'ont pas le courage d'aller au bout de leur passion. Alors, bon, la charge ici contre le moralisme de la masse est forte, elle est assez intéressante, même si elle a des limites, et ces limites, eh bien, Socrate n'aura pas trop de mal à les pointer. Il va notamment réussir à pointer la contradiction, finalement, dans le raisonnement de Calliclès, qui prétend être libre et fort, mais qui, en réalité, est peut-être prisonnier. Prisonnier, en particulier, donc, de cette mécanique du désir. Et c'est ce que Socrate va montrer en faisant une comparaison, même une analogie, entre la façon de gérer ses désirs et la possession de tonneaux.
Suppose qu'il y ait deux hommes qui possèdent chacun un grand nombre de tonneaux. Les tonneaux de l'un sont sains, remplis de vin, de miel, de lait, et cet homme a encore bien d'autres tonneaux, remplis de toutes sortes de choses. Chaque tonneau est donc plein de ces denrées liquides qui sont rares, difficiles à recueillir, et qu'on n'obtient qu'au terme de 20 travaux pénibles. Mais, au moins, une fois que cet homme a rempli ses tonneaux, il n'a plus à y reverser quoi que ce soit ni à s'occuper d'eux. Au contraire, quand il pense à ses tonneaux, il est tranquille. L'autre homme, quant à lui, serait aussi capable de se procurer ce genre de denrées, même si elles sont difficiles à recueillir, mais comme ces récipients sont percés et fêlés, il serait forcé de les remplir sans cesse, jour et nuit, en s'infligeant les plus pénibles peines. Alors, regarde bien. Si ces deux hommes représentent chacun une manière de vivre, de laquelle des deux dis-tu qu'elle est la plus heureuse? Est-ce la vie de l'homme déréglé ou celle de l'homme tempérant?
Remplir un tonneau percé, c'est-à-dire alimenter en permanence le cercle vicieux du désir. C'est absurde. On retrouve ici un motif assez fréquent dans la pensée grecque, dans la mythologie grecque, l'idée d'un châtiment répétitif. En fait, Socrate évoque ici, sans le dire, un épisode de la mythologie qui est l'épisode des Danaïdes, condamnés pour avoir tué leur mari sur ordre du père. Ce sont les filles en fait d'un roi qui étaient mariées à leur cousin et qui, le soir de la nuit de noces, tue ses cousins sur ordre du père. Et les dieux mécontents, eh bien, les condamnent, parce qu'elles n'ont pas respecté le châtiment du mariage, et elles les condamnent, les dieux condamnent donc ces Danaïdes à remplir des tonneaux percés pour l'éternité. Donc on retrouve un peu ce motif hein, de l'absurdité. Donc c'est absurde, ce n'est absolument pas grandiose, comme le prétend Calliclès, parce qu'en réalité, en accumulant des plaisirs, il accumule de la même façon des douleurs. Et il se trouve aussi libre et heureux que pourrait l'être au fond un toxicomane. Calliclès ne se laisse pas impressionner par l'argument de Socrate, et il lui rétorque que l'homme au tonneau saint vit comme une pierre. C'est-à-dire qu'il ne ressent plus rien. Il ne ressent plus rien, son existence est plate, vide de sens, pas d'intensité. Alors, il faut bien noter que Socrate ne condamne pas le plaisir en tant que tel, comme pourraient le faire d'autres philosophes, mais il prône une bonne gestion, une limitation, qui va sembler bien terne à un Calliclès épris de passion, qui finalement va assumer le caractère répétitif de la souffrance à laquelle il se condamne. Et peut-être que c'est ça le courage dont il parlait précédemment, que n'ont pas la plupart des hommes, et qui du coup créent la morale, en fait, pour masquer leur faiblesse. Calliclès, lui, est prêt à aller jusqu'à cette extrémité d'accepter le maximum de souffrance comme prix de la répétition du plaisir. Mais ici, Socrate a beau jeu de lui rétorquer à son tour que son mode de vie n'est pas celui d'une pierre, effectivement, celui de Calliclès, mais plutôt celui d'un pluvier. Alors un pluvier, vous savez peut-être pas ce que c'est un petit oiseau, dont le gabarit l'amène à digérer et à évacuer instantanément ce qu'il mange. Alors au-delà de l'échange de noms d'oiseaux, hein, au sens propre ici, on a une profonde divergence sur la définition d'une vie heureuse, d'une vie bonne. Stabilité d'un côté, intensité de l'autre. Dans un autre passage du Gorgias, un peu plus tard, Socrate compare la répétition du désir au mécanisme de la démangeaison. Le plaisir grandit certes en même temps que la souffrance, plus ça nous démange, plus le fait de nous gratter nous satisfait, mais plus on se gratte, plus ça nous démange, etc., etc. Mais à la fin, la chair est à vif. Alors, on peut appliquer ça à tout fonctionnement du désir, et y compris à la stimulation du désir dans nos sociétés. Sentimentale.
serait par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moquette du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval, foule sentimentale. Soif idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on parle, comment on parle.
On nous inflige des désirs qui nous affligent. Écrivait Alain Souchon donc en 1993. Déjà, on voit l'actualité encore que garde cette chanson autour de cette stimulation permanente de désir dans la société de consommation qui n'a pas beaucoup de sens en réalité. Ici, au fond, le désir était fondamentalement affligeant. La publicité est rarement subtile, rarement intelligente, et pourtant elle fonctionne d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y a pas là plus qu'une métaphore? Au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas là la clé de compréhension de nos désirs infligés de l'extérieur et qui nous rendent affligés de l'intérieur? En fait, l'attitude de Calliclès cache mal le profond désarroi auquel nous confrontent nos limites. L'humain veut tout, mais obtient réellement très peu. Son désir est insatiable. Et les rares fois où il peut trouver satisfaction, par exemple lorsqu'il s'agit d'un désir très basique, son absence génère un autre sentiment négatif, l'ennui. Alors, revenons un instant sur une idée évoquée rapidement jusqu'ici, celle d'un lien nécessaire entre le désir et le manque. Après tout, ça n'a rien d'évident. La publicité semble indiquer que l'on peut générer un désir sans manque préalable. Ce que confirme la très grande quantité d'objets absolument inutiles que nous achetons. Mais précisément, le génie de la société de consommation est de produire, non pas seulement des objets inutiles, mais du manque, même artificiel. Parce qu'on ne désire jamais ce que l'on a déjà. À la limite, on peut désirer et conserver ce qu'on a déjà. Mais c'est alors par anticipation du manque que générerait sa perte. Si l'on possède sans crainte de perte, alors on jouit d'un objet, on ne désire plus. Le désir implique donc le manque, qui n'est jamais une sensation agréable. Et c'est bien pour cela qu'on cherche à le faire cesser, en satisfaisant le désir. Et on appelle ça du plaisir. Mais on pourrait douter ici, est-ce qu'il ce n'est pas simplement la cessation de la souffrance? Est-ce qu'il n'y a pas une illusion dans ce que nous appelons plaisir? Peut-être qu'il n'est rien d'autre qu'une compensation. Si bien que la seule chose qui existerait réellement serait la souffrance du manque. Et ce qu'on appelle satisfaction du désir ne serait en fait qu'un retour à l'état initial, une compensation qui n'apporterait rien de plus. Et une fois qu'on aurait obtenu cette satisfaction, nous basculerions dans l'attente d'une nouvelle souffrance, attente que nous appelons l'ennui. Et c'est ainsi que le très joyeux philosophe allemand Arthur Schopenhauer peut présenter l'existence humaine comme un pendule oscillant en permanence entre les deux pôles que sont la souffrance d'une part, l'ennui d'autre part.
Tout désir naît d'un manque, d'un état qui ne nous satisfait pas. Donc il est souffrance tant qu'il n'est pas satisfait. Or, nulle satisfaction n'est de durée. Elle n'est que le point de départ d'un désir nouveau. Nous voyons le désir partout arrêté, partout en lutte, donc toujours à l'état de souffrance. Pas de terme dernier à l'effort, donc pas de mesure, pas de terme à la souffrance. Déjà, en considérant la nature brute, nous avons reconnu pour son essence intime l'effort, un effort continu, sans but, sans repos. Mais chez la bête et chez l'homme, la même vérité éclate bien plus évidemment. Vouloir, s'efforcer, voilà tout leur être. C'est comme une soif inextinguible. Or, tout vouloir a pour principe un besoin, un manque, donc une douleur. C'est par nature, nécessairement, qu'ils doivent devenir la proie de la douleur. Mais que la volonté vienne à manquer d'objet, qu'une prompte satisfaction vienne à lui enlever tout motif de désirer, et les voilà tombés dans un vide épouvantable, dans l'ennui. Leur nature, leur existence, leur pèse d'un poids intolérable. La vie donc oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ce sont là les deux éléments dont elle est faite, en somme.
Alors il peut paraître pessimiste, Schopenhauer. En effet, il prend au sérieux la finitude humaine, c'est-à-dire le caractère limité à tout point de vue de notre existence. Bon, si on met un peu de côté la dimension tragique de sa description, elle nous permet peut-être tout de même d'éclairer d'un jour intéressant l'intense frustration qui semble à la fois être une cause et une conséquence de notre société de consommation. Cause parce qu'on est frustré, donc on espère que la consommation va nous faire sortir de cela, et conséquence parce que la consommation ne nous satisfait jamais et crée donc, génère, intensifie cette frustration. La frustration, d'où provient-elle? Elle provient de cette sensation d'un manque qui n'est jamais réellement comblé, d'un désir sans cesse stimulé et sans cesse déçu, et d'un ennui qu'il faut à tout prix chasser. Par exemple, par la consommation, justement. Car l'ennui ne devient insupportable qu'en contraste avec l'émotion ressentie dans le désir. Émotion elle-même essentiellement négative, si l'on en croit Schopenhauer. Le smartphone se glisse avantageusement dans les interstices de ce fonctionnement sinueux, comme j'avais essayé déjà de le montrer dans le premier épisode de l'émission. Il chasse l'ennui, proposer des divertissements qui n'auront pas d'autre effet que d'entraîner la frustration d'un manque jamais pleinement comblé, ou seulement virtuellement. Et la répétition s'enclenche. Schopenhauer propose comme horizon de sortie de cette oscillation pendulaire entre désir et souffrance une sorte de suppression du désir. Il se rapproche ici des perspectives orientales que l'on peut trouver dans le bouddhisme indien ou dans le taoïsme chinois. Alors, ce sont des pensées un peu déroutantes pour nos esprits occidentaux, mais elles ont peut-être le mérite d'attirer notre attention sur la vanité de nos efforts visant à obtenir satisfaction par l'intermédiaire du désir. On peut prendre ici l'exemple du penseur chinois de l'Antiquité, Chuang Tzu, ça dépend des façons de le présenter, mais enfin, je crois que la prononciation exacte c'est Chuang Tzu, qui considère qu'il est totalement vain de désirer, et même plus largement, chez lui, il est totalement vain d'agir avec une intention, avec un objectif précis. Et la solution qu'il préconise consiste à accompagner le cours des choses. Non pas à être complètement dans la passivité, ne rien faire du tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'embrasser le fonctionnement naturel des choses, ne rien lui superposer, ne rien créer de nouveau par rapport à ce que le cours naturel des choses nous impose. Ici, une image qui paraît intéressante pour comprendre ce dont il s'agit est celle du marin dans la tempête. Un marin dans la tempête ne s'en sortira pas en s'opposant au courant, ni en restant totalement passif au fond de sa cale. Son action doit accompagner le courant et le vent. Alors, dans cette perspective, le désir n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que, au fond, désirer, c'est aller contre le courant, contre le vent. C'est vouloir modifier l'ordre des choses. Puisque si le désir correspond vraiment à un manque qu'on veut faire cesser dans une démarche volontariste, alors on cherche à s'opposer au cours des choses, et c'est peut-être pour ça qu'on est frustré, puisque finalement, le cours des choses finira toujours par s'imposer contre nous. Et nos efforts pour essayer de le contrer ne vont générer que frustration, souffrance, ennui. C'est voué à l'échec. Bon, alors cette forme de sagesse, Swang Tzu reconnaît lui-même qu'elle est difficile à atteindre et peut-être même impossible à atteindre pour le commun des mortels. Au-delà de ça, on pourrait se demander si elle est réellement souhaitable. Ici, on a développé une vision assez pessimiste, négative du désir, peut-être réaliste, diront certains, mais peut-être à laquelle il manque tout de même quelque chose. Il manque tout de même une certaine dimension. Et ce qui manque, eh bien, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, le mois prochain. C'est-à-dire l'idée que le désir peut aussi signifier autre chose et être, au fond, à la racine d'une sorte d'énergie beaucoup plus positive que ce qu'on a montré jusque-là.
Montez dans la barque des livres.
Et dans la barque des livres, ce mois-ci, nous allons retrouver Schopenhauer, que nous venons de quitter à propos du désir. Bon, c'est pas du tout du coup un livre récent que je vais présenter ici, puisque c'est un livre qui date du 19e siècle, et qui a donc été écrit par Schopenhauer. C'est un tout petit livre qui n'a rien à voir avec le désir, pour le coup, ou plutôt si avec une forme de désir bien spécifique, qui est le désir d'avoir toujours raison. Schopenhauer a écrit un petit livre qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison », qui a été édité dans plein de collections, mais il est notamment édité aux éditions « Mille et une nuits » pour une somme tout à fait modique, inférieure à 3 euros. Et c'est un tout petit livre qui recense en fait des stratagèmes argumentatifs permettant de s'assurer au cours d'une discussion, au cours d'un débat, de l'emporter. Alors, bon, on pourrait se dire que l'intérêt philosophique est assez faible. En fait, non, l'intérêt philosophique est assez fort, puisque on peut l'utiliser de plusieurs façons. Alors soit vous pouvez vous en servir pour avoir effectivement toujours raison lorsque vous parlez avec des gens, je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de s'en servir pour débusquer toutes les méthodes pas très honnêtes en général, qui permettent dans une discussion de dévier le cours de la discussion de son objet réel vers d'autres choses permettant de discréditer la personne à qui on parle. En fait, ce que Schopenhauer va montrer, c'est que il y a plusieurs voies pour s'assurer d'avoir raison dans un débat, et la voie la plus sûre, en général tout de même, est de passer sur le terrain donc qu'on appelle ad hominem, c'est-à-dire de s'en prendre à la personne et non pas à la chose dont on parle. Alors on peut faire des arguments ad rem ça veut dire envers la chose, c'est-à-dire s'attaquer à la validité de ce qui est dit par son interlocuteur, mais en général, quand on est pris en défaut sur la réalité, eh bien, on peut se réfugier dans l'autre façon de faire, qui est donc ad hominem, envers l'homme, c'est-à-dire s'attaquer en fait à la cohérence de l'interlocuteur avec lui-même. Et ça donne des stratagèmes tout à fait intéressants, permettant donc de s'assurer d'avoir le dessus. En fait, avoir toujours raison, ça veut surtout dire avoir le dessus. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, ce qu'on dit a plus de valeur. Voilà. Alors, bon, je trouve ce petit livre tout à fait brillant, déjà, parce que c'est très drôle de le lire. Et puis, c'est surtout, en fait, c'est malheureusement... On peut voir ça comme drôle, mais on peut aussi voir ça comme assez tragique, parce qu'on va retrouver dans ce petit livre beaucoup de stratagèmes qu'on peut voir qu'on peut entendre au quotidien, ou qu'on peut voir dans certains médias, voilà, qui prétendent être dans le débat d'opinion. Et en fait, bah, c'est juste des discussions un peu de comptoir, mais parfois au comptoir c'est plus intéressant que dans ces émissions, parce que précisément dans ces émissions, les gens qui participent manient plutôt le genre de stratagème dont Schopenhauer parle dans ce petit livre. Voilà, donc c'est tout à fait intéressant, on aura l'occasion de reparler de ça, de ce problème-là, du rapport à la vérité et de la discussion. Donc vous pouvez aller lire ce petit art d'avoir toujours raison de Schopenhauer aux éditions 1001 Nuits. Et nous, on se retrouve donc le mois prochain pour continuer à parler du désir, d'une façon cette fois-ci un peu plus positive.
Retrouvez Au fil de l'eau une fois par mois, le mardi matin en première diffusion, en replay le samedi suivant, et sur le site de Pigouille Radio à l'heure qui vous chante. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au fil de l'eau @pigouilleradio.fr.